midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec vous Anissa, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre grand journal, juste après, on va faire bouger la France. Gros plan aujourd'hui sur un secteur qui est en pleine mutation avec de nouveaux débouchés. Ce secteur, c'est celui de la soie. A tout de suite sur Europe 1.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Des mesures d'aide, oui, mais des taxes aussi. Le gouvernement maintient la hausse programmée sur les carburants et les énergies fossiles, mais le Premier ministre donne aussi de l'autre main les aides aux ménages, chèque énergie, prime à la conversion et coup de pouce pour démonter les chaudières au fioul. Cela suffira-t-il à calmer le jeu à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes? Dossier complet dans ce journal. Un témoignage exceptionnel sur Europe 1, celui de la mère d'une des femmes mises en cause dans l'affaire de pédophilie de la Nièvre. Elle dédouane sa fille au micro de Jeanne Bergaoui. Nous essaierons de comprendre pourquoi personne n'a rien vu. Une manif sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin à Marseille. C'est ce soir, une partie des habitants va défiler. Point de départ du cortège, la rue d'Aubagne, là où 2 immeubles se sont effondrés début novembre. À la une aussi, le Brexit. Un préaccord est sur la table avec l'Union européenne, mais Theresa May doit obtenir le feu vert cet après-midi de son gouvernement. Et puis la rougeole, attention, l'épidémie progresse en Île-de-France. Enfin, les sorties ciné, on vous emmène voir les animaux fantastiques. La météo, Elena Mornas, c'est contrasté.
Effectivement, avec de la douceur sous les éclaircies ou le soleil qui prennent l'avantage sur une grande partie du pays, de la fraîcheur sous la grisaille persistante dans le nord-est, et puis une exception, douce, grise et humide sur le Languedoc-Roussillon.
Merci Elena, on se retrouve tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Des mesures pour montrer qu'il ne fait pas que taper au portefeuille. Le Premier ministre a donc dévoilé ce matin 3 des dispositifs qu'il va mettre en place pour calmer la grogne des Français, très remontée, vous le savez, contre la hausse des prix de l'énergie. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Les annonces, on va évidemment les regarder avec vous en détail, à commencer par la super prime à la conversion pour changer son vieux véhicule diesel ou essence. Pourquoi super ?
Eh bien parce qu'elle est doublée. Hein. De 2000, on va passer à 4000 euros pour l'achat d'un véhicule peu polluant, essence ou diesel, un véhicule d'occasion. Et même, selon nos informations, cette prime sera de 5000 euros pour un véhicule hybride neuf ou d'occasion. Alors on rappelle que pour bénéficier de cette prime, il faut avoir un vieux véhicule à mettre à la casse. Mais attention, cette super prime ne concerne pas tout le monde.
Bon, cette super prime, justement, qui y a droit et quels sont les contours ?
Alors le Premier ministre a parlé ce matin des 20% des ménages les plus modestes. Et puis aussi des foyers non imposables qui font 60 km aller-retour pour aller travailler. Alors pour résumer, sont donc concernés ceux qui ont de faibles revenus et qui parfois sont obligés de prendre leur voiture tous les jours. Mais tout ça demande encore à être affiné. Ce sera dans le cadre du budget discuté en ce moment à l'Assemblée. Une super prime qui doit en tout cas entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Au total, 1 million de primes à la conversion sont versées d'ici la fin du quinquennat, soit un doublement de ce qui est prévu.
Anne-Laure, vous restez avec nous. On va justement aller voir comment réagissent ce matin les automobilistes à l'idée de cette super prime. Sont-ils décidés, oui ou non, à changer de voiture? Pour le savoir, évidemment, pas de meilleur endroit qu'une station essence. C'est là que vous vous êtes rendu, Jean-Luc Bougeon, en périphérie de Lyon.
Ouais, effectivement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les automobilistes ne sautent pas au plafond. 4000 euros au lieu de 2000 jusque-là, ça ne change pas foncièrement la donne, estime Anen, qui pourtant aimerait bien remplacer son vieux Renault Scénic Turbo Diesel de 2005.
C'est pas assez. Franchement, c'est pas assez quand on voit les prix. Moi, je voulais aller sur un essence qui pollue moins, sur un petit véhicule. Et puis, j'aimerais bien aussi avoir un côté essence en même temps hybride. Mais quand je vois ce qu'on propose, Renault, j'ai laissé tomber, c'est trop cher. Citroën, j'ai laissé tomber, c'est trop cher. Et en réfléchissant, je dis, tant pis si je pollue. Et limite, je m'en fous si je pollue. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas les moyens financiers.
Donc, 4000 euros de l'État,
c'est une goutte d'eau. C'est rien du tout. Et je vais continuer à polluer, ouais. Parce qu'on m'aide pas à changer d'état d'esprit par le portefeuille.
Et le sentiment elle-même chez Mélanie, en train de faire le plein de sa vieille Clio, pour elle, ce gouvernement est déconnecté des réalités que vivent les Français.
La voiture, elle ne fait pas 4000 euros, je pense, après. Donc, il faut avoir les moyens pour compléter tout ça et c'est impossible. On ne peut pas le changer. Personnellement, je suis toujours avec ma Clio depuis 6 ans. C'est un budget. Moi, je ne peux pas, personnellement, avec le salaire que je touche, le SMIC, changer de voiture. Faire un prêt, tout ça, maintenant, ce n'est plus possible.
Voilà, alors l'impression générale des automobilistes que j'ai pu interroger, c'est que le gouvernement est en train de bricoler des solutions après coup, des solutions qui ne satisfont pas grand monde et qui ne règlent pas le problème du prix de l'essence à la pompe.
Merci Jean-Luc Bougeon à Lyon pour Europe 1. Alors Anne-Laure Jumet, il n'y a pas que la super prime, il y a aussi une deuxième grande idée, faire disparaître toutes les chaudières au fioul qui fonctionnent encore en France d'ici 10 ans. C'est ambitieux?
Oui, parce que près de 4 millions de ménages se chauffent au fioul. Dans le détail, il y a 3 millions de maisons qui sont équipées d'une chaudière au fioul et 600 copropriétés. Donc vous voyez, c'est un grand changement à faire. Et cette énergie, en tout cas, elle est devenue plus chère ces derniers mois avec l'envolée des prix du pétrole et l'augmentation des taxes. Donc a priori, les particuliers y ont tout à gagner. Le gouvernement annonce donc une aide à la conversion, une prime là encore, qui pourrait représenter le tiers des dépenses et qui devrait entrer en vigueur alors progressivement, mais dès l'an prochain, nous dit-on, à Matignon.
Plus de chaudières au fioul à l'horizon 2029. Si j'ai bien fait les comptes, c'est vrai que ça laisse du temps, mais ça met en colère Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française de combustible, qui déplore, lui, un manque de concertation avec le secteur.
Ce sont des annonces qui, à nos yeux, sont parfaitement irréalistes. Elles oublient d'annoncer qu'il y a des substituts possibles au fioul domestique en incorporant de l'énergie renouvelable dans des bioliquides et non pas de pousser les consommateurs à utiliser les réseaux électriques avec des pompes à chaleur qui poseront un problème de production électrique. Accessoirement, mais c'est quand même le plus important pour nous, il y a à peu près 12 à 14 000 emplois en jeu, des emplois qui assurent des services de proximité. Donc pas d'étude d'impact, pas de concertation, on est parfaitement stupéfait.
Quand vous dites 12 à 14 000 emplois en jeu, ce sont des emplois de livreurs de fioul, qui conduisent les camions qui vont livrer le fioul auprès des particuliers?
Ce sont les emplois d'environ 1 600 entreprises qui assurent effectivement la distribution du fioul domestique, du bois énergie et des services de proximité.
Mais on peut supposer que les entreprises, en 10 ans, auront la possibilité de se réorienter vers de nouvelles énergies.
À condition que ces nouvelles énergies émergent, c'est bien là notre demande pressante, c'est de substituer au fioul domestique 100% fossile un bioliquide qui intègre de plus en plus de parts d'énergie renouvelable plutôt que de laisser les consommateurs sans véritable alternative.
Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française de combustible, au téléphone Europe 1 d'Olivier Samin. Anne-Laure, enfin, ça se confirme, le chèque énergie va être élargi, c'est-à-dire élargi.
Alors, on aura 2 millions de bénéficiaires en plus l'an prochain pour passer à 5,6 millions de ménages. Il s'agit en fait de relever un peu le seuil pour cibler des personnes imposables mais qui ont de faibles revenus. Un chèque qui sert notamment, on le rappelle, à payer ses factures d'énergie. Alors il passe à 200 euros l'an prochain contre 150 euros aujourd'hui, mais 200 euros c'est une moyenne. Tout le monde ne reçoit pas cette somme. Les 2 millions de bénéficiaires supplémentaires dont on parle vont ainsi recevoir en moyenne 60 euros.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors ces mesures, évidemment, elles interviennent à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. Bien malin, celui qui peut dire quelle sera son ampleur ce samedi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça inquiète l'exécutif qui essaye avec cette batterie d'annonces de désamorcer la grogne. Jean-Rémy Baudeau, vous êtes à l'Élysée pour Europe 1. C'est un pari, car en même temps, pas question de toucher à la hausse des taxes sur les carburants.
Oui, et pas question non plus de modifier la trajectoire. On ne ralentit pas le rythme sur la transition écologique, explique ce matin un proche du Premier ministre. L'exécutif qui promet que ces mesures ne sont pas uniquement faites pour tempérer la grogne promise samedi. Il n'y a pas d'incendie, il n'y a qu'une manifestation, précise-t-on en haut lieu. L'enjeu des annonces ce matin, rappelle Matignon, était en fait de répondre aux demandes du président, d'apporter des solutions à ceux qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture. Avec la super prime, on pourra quasiment arriver à la gratuité de certains véhicules, veut croire un conseiller qui précise que ces mesures sont notamment faites pour les classes moyennes avec l'indemnité kilométrique. Alors d'ici quelques minutes, à la fin du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux va détailler, peut-être d'ailleurs avec le ministre de la Transition écologique de Rugy, de nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat et la mobilité. On attend plus de détails, notamment sur le covoiturage ou les travailleurs indépendants, de quoi probablement envoyer de nouveaux signaux en français en général et aux Gilets jaunes en particulier.
Jean-Rémy Baudeau en direct de l'Élysée pour Europe 1. Et si les Français courent, on l'a vu après les euros, c'est plus dur du coup pour eux de mettre la main au portefeuille pour donner en fin d'année. Les associations commencent d'ailleurs à le ressentir. Selon France Générosité, c'est une baisse de 6,5% qui a été enregistrée au premier trimestre, la première en 12 ans. Ce que confirme aussi d'ailleurs Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il reçoit des coups de fil de donateurs réguliers qui cette année, faute de moyens, ne pourront pas faire un geste.
Certains nous appellent pour nous dire « j'ai une baisse de mes capacités financières, un demi-mois par an, parfois plus, liée à la hausse de la CSG qui n'a pas été compensée pour les retraités par la baisse des cotisations sociales, par définition, parce qu'ils ne sont pas salariés. » Donc on a eu plusieurs témoignages de ménages retraités qui nous disent « moi c'est difficile et je ne vais pas pouvoir vous donner de la même manière ». On ne peut pas le mesurer encore complètement, mais c'est à peu près 5 à 6% en moins. On est à peu près dans les mêmes proportions que ce que les autres associations rencontre comme difficulté aujourd'hui. Je pense que c'est quand même important que les responsables politiques mesurent les effets collatéraux, les effets périphériques de la fiscalité sur la question de la solidarité et en particulier du don, parce que je rappelle qu'il y a près de 9 millions de pauvres dans notre pays, 1 million de plus en 10 ans. Donc il faut être attentif à ce sujet.
Christophe Robert avec Aude Vernocchio.
Il est 12h39.
Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, pourquoi personne n'a rien vu ou dit dans la Nièvre? Une affaire de pédophilie vient d'être révélée. Nous irons dans l'un des villages justement où vivait l'une des familles impliquées. A tout de suite.
Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal Raphaël Duchemin.
Comment 8 adultes ont-ils pu pendant des années faire subir des viols, des violences, des privations de nourriture à 4 petits garçons sans que personne ne donne l'alerte? C'est ce que va essayer de comprendre maintenant la justice qui les a mis en examen. Pas moins de 70 infractions constatées pour ces 5 hommes et ces 3 femmes. Jeanne Bergaoui, vous êtes toujours à Châtillon en Bazois, dans la Nièvre pour Europe 1. C'est dans ce petit village de moins de 1000 habitants que vit l'un des couples mis en cause. Jeanne, vous avez rencontré et recueilli en exclusivité pour Europe 1 ce matin le témoignage d'une des grand-mères.
Oui, cette grand-mère un peu débraillée, le visage marqué par la fatigue, se dit sous le choc de cette affaire. Et d'abord très en colère, elle claque la porte au nez puis la rouvre pour crier sur tous ces gens médisants qui font du mal à sa famille. Elle a envie de donner sa propre version. Sa fille, c'est quelqu'un de correct, dit-elle, et toutes ces allégations de viol ou d'attouchement sur ses petits-enfants sont fausses.
Ma fille n'a jamais été pédophile. Ma fille a jamais maltraité ses enfants et puis elle n'a jamais fait du ratoussement. C'est pas vrai. Je vois assez souvent mes petits-enfants. Ils demandent souvent de pourquoi ils sont partis de chez la maman. Et son mari n'a fait jamais d'attouchement sur ses enfants non plus. Hein. Au contraire, il joue avec, il va à la pêche avec ses enfants, il adore ses enfants.
Alors une version largement contredite ici, hein, dans le village où le père de famille était craint, décrit comme un homme marginal, voleur de légumes ou d'essence. Et puis les langues se délient, certains habitants reconnaissent qu'il avait parfois la main lourde sur ses garçons, tous placés les uns après les autres. Des habitants qui se demandent maintenant comment ces enfants ont pu être victimes d'abus sur une aussi longue période, malgré tous ces signalements.
Jeanne Bergaoui, à Châtillon, en Bazois, dans la Nièvre, pour Europe 1. Bonjour, docteur Salmona.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. On le répète, hein, depuis hier, c'est une affaire hors norme. 4 enfants, 8 adultes. Ce qui frappe aussi, c'est le nombre d'années pendant lesquelles, et Jeanne le signalait, les violences ont duré sans que personne ne parle.
Oui, bah, malheureusement, c'est malheureusement chose courante. Enfin, bon, là, cette affaire-là, c'est vrai, le nombre d'adultes mis en cause est important, mais sinon, dans l'immense majorité des cas, les situations d'inceste ne sont pas connues et il y a très très peu de plaintes, très peu de signalements. Et la plupart du temps, on apprend ce qui s'est passé des années et des années après, et les enfants n'ont jamais été protégés. Hein. Dans notre enquête, c'est 83% des personnes victimes de violences sexuelles qui ne sont jamais ni reconnues ni protégées. Donc c'est malheureusement la norme et c'est ça qu'il faut changer.
Les gens disent, dans le village où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, on se doutait de quelque chose, mais on pensait, hein, ce sont les mots qu'ils emploient, qu'ils étaient plus idiots que méchants.
Oui, bah c'est il y a souvent un phénomène de bah déjà de tolérance par rapport à des comportements violents vis-à-vis des enfants. Malheureusement, on est encore beaucoup trop tolérant. Et puis il y a le fait qu'on se mêle pas aussi des affaires de famille. Et puis que les gens ont du mal à imaginer le pire et l'horreur de ce qui peut se produire parce qu'ils ont pas idée à quel point ça peut être aussi fréquent des violences sexuelles et les situations de viol incestueux et c'est là où il y a un manque d'information et de préoccupation de tout un chacun à tout niveau. Hein.
Une des institutrices qu'a rencontré Jeanne Bergaoui confirme que un des petits garçons concernés venait débrailler à l'école, que parfois il portait des marques et qu'à chaque fois qu'on lui posait des questions, il minimisait. C'est automatique ça aussi chez les enfants.
Oui, protéger les parents. Enfants, alors c'est pas qu'ils protègent leurs parents, c'est qu'ils sont tellement traumatisés et c'est tellement horrible ce qu'ils vivent. que leur cerveau en fait met en place un système de sauvegarde exceptionnel qui va les anesthésier émotionnellement pour pouvoir survivre. C'est un tel stress qu'ils pourraient en mourir. Et du coup, ils sont complètement déconnectés, complètement à la masse, en quelque sorte, un peu sur mode automatique. Et du coup, ils ne vont pas pouvoir parler. En fait, le plus souvent, les enfants arrivent à parler quand ils ne sont plus exposés aux violences et aux agresseurs. Il faut qu'ils soient placés pour que là, ils puissent commencer à ne plus être, parce qu'ils sont protégés, ils sont plus anesthésiés, et à ce moment-là, toute l'horreur de ce qui leur arrive peut sortir, en fait. Ils sortent d'une sorte de coma psychique, en quelque sorte.
Merci, docteur Salmona, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Aux assises de Versailles, le procès de Georges Tron et de son ex-adjointe touche à sa fin. Le maire de Draveil, Brigitte Gruel, devrait être fixé demain au plus tard sur leur sort. Guillaume Bier, vous êtes sur place pour Europe 1. Ça y est, les réquisitions sont tombées.
Effectivement, au terme de 2 heures de réquisitoire, l'avocat général de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, ici Frédéric Bernardo, a requis la condamnation de Georges Tron et de son ex-adjointe Brigitte Gruel. 6 ans de prison pour lui, 4 ans pour elle, ainsi qu'une peine d'inéligibilité de 5 ans. Pour l'avocat général, les accusés sont bel et bien coupables de viols et agressions sexuelles qui leur sont reprochés. Il s'est efforcé d'en convaincre les jurés en venant leur parler face à face, debout dans le prétoire. C'est une image assez rare en cour d'assises. Le magistrat leur a demandé de faire appel à leur bon sens en faisant abstraction des écrans de fumée de la défense. D'ailleurs, régulièrement pendant le réquisitoire, on a vu Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Georges Tron, gesticuler, commenter à voix haute. Et oui, ça gêne quand on démonte les mécanismes, a réagi l'avocat général. En résumé, pour Frédéric Bernardo, les faits de nature sexuelle ont bien eu lieu. Ils étaient imposés, pas de consentement. Il a parlé des victimes réduites à des objets sexuels avec la complicité de Brigitte Gruel. Elle fait partie du piège, a-t-il dit. L'avocat général a aussi fustigé Georges Tron qui vampirise ses victimes. Quant à la tête du complot politique avancé par les accusés, pour lui, ça ne tient pas. Voilà pourquoi donc il réclame la condamnation de Georges Tron et de son ancienne adjointe Brigitte Gruel.
Merci Guillaume Bier en direct des assises de Versailles pour Europe 1. À Marseille, Jean-Claude Godin va avoir les oreilles qui sifflent ce soir, car c'est sous ses fenêtres qu'une partie des Marseillais ira crier sa colère dans la rue. Des habitants qui vivent pour la plupart dans des quartiers oubliés. Le cortège partira à 18h de la rue d'Aubagne, là où les 2 immeubles se sont effondrés le 5 novembre dernier.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h49, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
Theresa May sera dans une petite poignée d'heures maintenant face à son gouvernement, et ça n'est pas une mince affaire que va devoir gérer la première ministre britannique, car elle doit convaincre ses ministres de dire yes au projet d'accord qu'elle a conclu avec l'Union européenne sur le Brexit. Une trahison, dit le Sun, un moment de vérité, titre le Financial Times. Bref, ça s'annonce compliqué, Jean-Sébastien Soldaini.
Très compliqué, car même au sein de son propre gouvernement, le projet divise, notamment chez les ministres les plus eurosceptiques, ceux qui sont en charge de piloter le Brexit. Il considère que ce texte est une terrible erreur. 2 sujets sont au cœur du désaccord. Le premier, c'est la question de l'Irlande du Nord. Faut-il ou pas rétablir une frontière physique et couper l'île en deux? A priori, ce ne sera pas le cas, ce qui ne plaît pas aux tenants d'un Brexit dur, au risque de raviver les tensions entre protestants et catholiques. L'autre sujet de désaccord découle de cette situation. Pour éviter l'apparition de cette frontière, Theresa May a fait des concessions à l'Union européenne. L'ensemble du Royaume-Uni devrait rester temporairement dans l'union douanière. Du coup, certains conservateurs voit déjà le pays comme un état vassal de l'UE. Ce sont les mots de Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères. Il redoute que les Britanniques restent de fait dans le marché unique, de fait soumis encore aux règlements de Bruxelles. Avec tout ça, certains éditorialistes anglais redoutent des démissions au sein du gouvernement, fragilisant encore un peu plus Theresa May.
Merci Jean-Sébastien. En Israël, c'est le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui annonce ce midi sa démission après le cessez-le-feu à Gaza. Il demande aussi la tenue d'élections anticipées.
Il est 12h51.
Europe 1.
Dans un instant, l'alerte en Ile-de-France sur la rougeole et les sorties ciné comme chaque mercredi sur Europe 1.
Il est est 12h54 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
On vous a beaucoup parlé cet été de l'épidémie de rougeole qui a sévi en Aquitaine. Elle a fait, souvenez-vous, 3 morts. Aujourd'hui, là-bas, la situation s'améliore. En revanche, la maladie connaît un pic en Île-de-France avec 56 cas recensés pour le seul mois d'octobre. Mélanie Gomez inquiète évidemment les autorités parce que la grippe arrive aussi très bientôt.
Et oui, c'est la crainte actuelle des autorités sanitaires. D'ici un mois, d'ici le 15 décembre, les premiers cas de grippe grave arriveront aussi aux urgences à l'hôpital. Et donc d'ici là, mieux vaut éviter que la recrudescence actuelle de rougeole en Île-de-France ne s'amplifie encore. Donc le message aujourd'hui, c'est qu'il est encore temps de prendre les choses en main et pour stopper net ce début d'épidémie, surtout en Seine-Saint-Denis qui est le département le plus touché, le seul moyen c'est la vaccination. Il faut que tous les enfants aient reçu leurs 2 doses de vaccin contre la rougeole qu'on fait généralement à 1 an et à 2 ans, mais aussi tous les adultes nés après 1980, eux aussi, doivent vérifier qu'ils ont bien reçu leurs 2 doses pour être bien protégés. Car ce qu'il faut rappeler, c'est que la rougeole, c'est l'un des virus les plus contagieux. Bien plus que la grippe, concrètement, une personne malade peut en contaminer jusqu'à 20. Enfin, on ne cesse de le répéter, hein, mais cette maladie n'a rien d'anodin. Vous le disiez, en Aquitaine, 3 personnes en sont décédées cette année. Alors en Île-de-France, heureusement, on n'en est pas là, mais sur les 56 cas, il faut savoir qu'une 15aine ont dû être hospitalisées, principalement des enfants de 4-5 ans.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. C'est mercredi, le jour ou jamais, pour aller découvrir les nouveautés dans les salles obscures. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Vous nous emmenez voir un film français.
Les Chatouilles, film autobiographique d'Andréa Bescon qui raconte à travers le personnage d'Odette qui a 8 ans, comment, enfant, elle a été abusée par le meilleur ami de ses parents et toute la rage qui en a découlé. Le violeur, c'est, vous savez, cet ami qui vient souvent chez vous, à qui vous n'hésitez pas à confier vos enfants pour les vacances. Après tout, c'est presque votre frère. Alors pendant longtemps, Odette, la victime, ne veut pas le dire à ses parents. Elle ne veut pas gâcher cette amitié. Elle a peur, elle culpabilise jusqu'au jour où elle se décide à parler, à porter plainte, soutenue par son père. C'est Clovis Cornillac, formidable dans le film, mais pas du tout par sa mère, interprétée par Karine Viard, qui banalise un peu tout ça, ses chatouilles. Et c'est la force du film, hein, c'est que derrière la légèreté de ce titre, on y traite toutes les dimensions de ce viol pédophile à travers le regard de la victime, du bourreau, des parents. C'est un film péchu, dense, évidemment lourd et touchant, mais aussi parfois, il faut bien le dire, drôle. Il y a de vrais moments légers et une galerie de personnages formidables. Donc allez-y, Les Chatouilles, signé Andréa Bescon.
Et puis sinon, on peut aller plonger dans l'univers de J.K. Rowling.
Eh oui, l'univers d'Harry Potter. Là, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. 2e épisode de 5 films déjà prévus autour de ces animaux fantastiques. Alors cette fois, on est en 1927. Le sorcier maléfique, Grindelwald, joué par Johnny Depp, s'est réfugié à Paris, ni une ni deux, Dumbledore, connu pour être le directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard et incarné cette fois par Jude Law, Dumbledore demande à son ancien élève, Norbert Dragono, de partir à sa poursuite dans les rues de Paris. Début d'une grande aventure, c'est sombre, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Moi, c'est pas mon univers, mais ceux qui aiment Harry Potter y trouveront leur compte.
Merci Mathieu Charrier, Monsieur Cinéma d'Europe 1.
Il est 12h57,
Europe 1. Restez avec nous, on vous emmène dans les Cévennes et dans la région lyonnaise, aujourd'hui à la découverte de la soie française.
12h30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Il fait bon sous le soleil, Elena Morna est frais sous les nuages.
Et la bonne nouvelle, c'est que les éclaircies ou le soleil sont majoritaires ce mercredi après-midi. Sur la moitié nord, on aura 14 à 17 degrés, un ciel lumineux. Plus frais, c'est vrai, entre les plaines d'Alsace, les vallées de la Lorraine ou encore le Val de Saône, où les brouillards matinaux ne vont pas se lever. Dans ces contrées, vous aurez 10 à 13 degrés. Alors dans le sud de la Loire, là aussi, c'est lumineux avec 15 à 20 degrés, et même 21 pour Cahors, pour Marseille et Ajaccio. Un bémol autour du golfe du Lion, sous les nuages et quelques gouttes. Ce scénario météo va se répéter demain et après demain, puis toujours beau au nord, variable au sud, pluvieux près de la Méditerranée et des températures qui vont baisser. Voilà la bise à partir de lundi.
Merci Elena.